Le débat du jour. Hugo Lanoë.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le débat du jour. Après les affaires Jérôme Cahuzac, François Fillon ou encore François de Rugy, que révèle de plus le cas Jean-Paul Delevoye des mœurs politiques françaises? En pleine contestation contre la réforme des retraites, le haut commissaire chargé de cet épineux dossier a démissionné lundi à la suite de révélations concernant les irrégularités commises dans sa déclaration d'intérêt. Jean-Paul Delevoye oublie de déclarer 10 mandats pour l'essentiel bénévole. Il indique aussi avoir perçu une rémunération privée comme président d'honneur d'un cercle de réflexion alors qu'il était en poste au gouvernement, un cumul strictement interdit par l'article 23 de la Constitution. Son cas est désormais entre les mains de la justice. La haute autorité pour la transparence de la vie publique a transmis le dossier au procureur. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire. Une nouvelle affaire dans un contexte de défiance des représentés vis-à-vis de leurs représentants qui remet sur le tapis une question, celle de la transparence. Alors quel niveau d'exemplarité faut-il attendre de nos dirigeants? La transparence est-elle un impératif en politique? C'est la question au cœur du débat du jour. Pour en parler, deux invités. Le premier est en studio avec nous, Mathias Chiche-Portiche, bonsoir.
Bonsoir, merci pour votre invitation.
Vous êtes avocat spécialisé en droit pénal, droit des médias, liberté publique, co-auteur avec Denis Oliven de Mortelle Transparence, paru chez Albin Michel, ouvrage qui dessine les contours d'un monde soumis au diktat de la transparence. Nous y reviendrons. Au téléphone, pour participer à ce débat avec vous, Jérôme Carcinti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vous aussi avocat, mais au sein d'Anticor, association qui lutte contre la corruption et qui lutte pour plus d'éthique en politique. Pour commencer, je me tourne vers vous, Mathias Chiche-Portiche. Quelle leçon doit-on tirer des omissions, on va appeler ça comme ça, entre guillemets, de Jean-Paul Delevoye?
Vous savez, je me garde toujours de parler des dossiers que je ne connais pas. Je ne connais absolument pas ce qu'il y a dans ce dossier, donc je m'en garderai. Ce que je constate, c'est... que cette affaire s'inscrit dans un climat, que ce climat, il est celui d'une hyper-judiciarisation de la vie politique. On a aujourd'hui un ancien président de la République qui est plusieurs fois mis en examen et envoyé devant un tribunal correctionnel. On a président de l'Assemblée nationale, numéro 3 de l'État, mis en examen.
Pense à Richard Ferrand.
Absolument, on a un certain nombre de figures des grands partis politiques qui sont soit mis en examen, soit condamnés par des juridictions correctionnelles. Alors, on peut s'en féliciter, on peut se féliciter qu'il y ait un mouvement où on applique la règle de droit aux hommes politiques, et c'est bien le moins dans une démocratie. Méfions-nous néanmoins des effets pervers, méfions-nous du tous pourri qui nourrit l'antiparlementarisme et qui peut conduire, et on en a eu des leçons dans l'histoire, au pire.
Jérôme Carcinti, je vous pose la même question. Quelle leçon vous tirez de ces omissions de Jean-Paul Delevoye?
Je pense qu'on a une vraie difficulté quelques années, bon, ça a toujours existé, mais je dirais que ça prend une ampleur un peu plus importante parce que l'exigence démocratique est plus grande. On a une sorte de décalage entre l'exigence démocratique citoyenne, celle qui veut de plus en plus contrôler, savoir, vérifier, avoir des hommes politiques qui en réalité... loin de seulement donner des leçons ou promouvoir des lois, sont également exemplaires dans leur pratique du pouvoir, eh bien, aujourd'hui, cette dimension-là fait que ce décalage existe avec des hommes politiques qui, eux, n'ont pas encore compris ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des hommes politiques qui viennent nous expliquer qu'ils sont ministres, mais qu'ils ne connaissent pas l'article 23 de la Constitution. On a des hommes politiques qui nous expliquent qu'ils sont ministres, mais que c'est leurs femmes qui font les déclarations d'intérêt, que eux s'occupent de grands problèmes, c'est-à-dire l'économie de la nation. Et donc ce décalage-là et cette ironie presque méprisante à l'égard du citoyen devient tout à fait inacceptable. Et où je rejoins mon confrère, c'est qu'effectivement on a derrière cela la montée des populismes, parce que la montée du discrédit du politique. Et c'est ce contre lequel il faut lutter. Or, et j'en aurais terminé sur cette première question, le grand sujet aujourd'hui, tel que le posait Maître Chiche-Portiche, c'est de dire, finalement, c'est cette judiciarisation qui pourrait fabriquer le populisme et qui fabrique le discrédit. Or, il faut juste inverser l'ordre des choses et se souvenir d'abord de la nécessaire exemplarité des hommes politiques, parce que ce sont eux qui, par leur pratique discréditante, en réalité, favorise la montée des populismes et ce qui nous pend au nez, peut-être demain, l'arrivée d'un Front National au pouvoir.
Alors messieurs, on l'a dit, Jean-Paul Delevoye s'est mis en infraction vis-à-vis de la Constitution en touchant des rémunérations de la part du cercle de réflexion Parallax qui lui rapportait quelques 5000 euros par mois alors qu'il est entré officiellement au gouvernement le 3 septembre. La Constitution est censée protéger les électeurs de leurs élus. Elle est aujourd'hui mise à mal par de hauts fonctionnaires, visiblement, en tout cas a priori. Faut-il s'étonner, justement, je vous pose la question à vous, Mathias Chiche-Portiche, s'étonner a posteriori si les Français ne croient plus ou ne font plus confiance en leurs dirigeants?
Je crois que le sujet de la responsabilité des gouvernants est au cœur de la crise démocratique. Responsabilité à la fois pénale lorsqu'il y a des sujets pénaux, mais le sujet de la responsabilité même politique des gouvernants doit être posé. C'est au fond parce que les mécanismes qui sont ceux du parlementarisme rationalisé qu'on a inventé sous la Ve République sont peut-être en échec. C'est au fond aussi peut-être parce que il y a eu dans le passé un certain nombre de gouvernants qui n'ont pas tenu la parole publique qu'ils ont tenue avant l'élection, qu'il y a aujourd'hui ce malaise, cette frustration des citoyens. Mais là encore, je crois qu'une vie politique mature, une démocratie mature, ça nécessite que chacun soit à sa place, que les gouvernants fassent de la politique, servent l'intérêt général, que les juges fassent du droit et rien que du droit, que les journalistes informent avec le souci qui est le leur de leur déontologie et que les citoyens votent. Et in fine, si chacun est à sa place, on vit dans une société apaisée. Ça n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui.
Mathias Chiche-Portiche, si je résume un peu votre pensée, la transparence est l'affaire de tous. C'est une affaire collective. Jérôme Carcenti, vous êtes d'accord avec cela?
Je ne suis pas d'accord sur tout. D'abord, je pense qu'il y a une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que la transparence est un mal nécessaire, mais ne résout pas en réalité l'ensemble des problèmes. Que la transparence permet en réalité de savoir. Il ne s'agit pas d'imaginer une société à la manière d'Orwell où on aurait la visibilité de chacun des âmes et des cœurs. On a la nécessité pour les représentants publics de savoir quels sont leurs liens d'intérêt. Et donc la transparence, c'est d'abord savoir ce que l'homme politique porte, indépendamment du modèle politique qu'il défend, ce qu'il porte en réalité comme intérêt privé personnel et qui pourrait induire une problématique qui serait une rupture avec l'intérêt général. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin. Je pense que la classe politique, et on le subit aujourd'hui, cette victoire du modèle néolibéral sur l'ensemble de l'économie, fait que la classe politique n'est plus à l'abri telle qu'elle était avant. Dans une classe politique protégée, j'allais dire, de l'économie, qui gouvernait l'économie, aujourd'hui, la politique est totalement infiltrée par les intérêts privés. On pourrait décliner plein de choses sur la manière dont cette porosité entre les intérêts privés et les intérêts publics sont de plus en plus et de plus en plus fréquente, et comment en réalité ça nuit à la défense de l'intérêt général et comment cela nuit à la qualité de la loi. C'est-à-dire, est-ce que la loi est bien faite pour tous, encore pour tous, ou est-ce que la loi, elle est en réalité le fruit de logiques d'intérêt qui aujourd'hui prennent le pas sur l'intérêt général?
Et justement,
ça, c'est le premier point. Juste un mot sur chacun à sa place. Aujourd'hui, l'électeur, le citoyen, n'est pas qu'un votant. Et le citoyen, aujourd'hui, il demande bien autre chose, c'est-à-dire d'avoir un regard non seulement critique, mais sa place en tant que contre-pouvoir dans l'exercice des pouvoirs publics. Et c'est, je crois, cela que n'a pas encore compris le modèle contemporain de la Ve République. Et on voit bien que Emmanuel Macron, loin de faire de la Ve République une avancée vers une place du citoyen, va au contraire verticaliser de plus en plus la Ve République. Et c'est, je crois, un des soucis majeurs aussi du discrédit des politiques.
Jérôme Carcenti, vous parliez à l'instant de la distinction entre le privé et le public. Parmi les oublis de Jean-Paul Delevoye qui font un peu tâche, puisque le désormais ex-ministre a oublié de mentionner sa fonction d'administrateur de l'IFPAS, un institut de formation de la profession de l'assurance, pour lequel il a travaillé bénévolement pendant 2 ans, alors qu'il planchait dans le même temps depuis 2017 sur la fameuse réforme des retraites. Ce qui met en lumière a priori un soupçon de conflit d'intérêts, puisque les assureurs privés sont considérés par certains détracteurs de la réforme des retraites comme les bénéficiaires de la réforme, puisque face à une éventuelle baisse des pensions, ce sont vers les assureurs que se dirigeront les futurs retraités pour obtenir un complément de revenus une fois qu'ils auront liquidé leurs droits. L'affaire Delevoye ne pose-t-elle pas le problème de l'imbrication de la sphère privée dans la sphère publique, Mathias Chiche-Portiche, d'intérêts privés qui viennent mettre à mal l'intérêt public?
D'abord, je me méfie du poison du soupçon. Le soupçon, il est, je dirais, l'ennemi de la vérité judiciaire. Aujourd'hui, cette affaire est entre les mains de la justice, qu'on laisse la justice faire son travail. S'agissant des intérêts privés et des intérêts publics, je pense que c'est le seuil de sensibilité qui est celui de notre société qui varie avec le temps. Parce que je ne suis pas certain que un peu plus avant au XXe siècle, les intérêts privés et les intérêts publics n'étaient pas davantage mêlés qu'aujourd'hui. Je ne suis pas certain que la société dans laquelle on vit soit beaucoup plus nécessairement corrompue que c'était du temps de la France-Afrique.
La différence aujourd'hui, c'est qu'on sait tout avec les réseaux sociaux, il y a un accès à la connaissance qui fait que...
Absolument. Donc, si vous voulez, moi, j'ai une phrase de Léo Ferré que j'aime bien, c'est « Ce qui est gênant avec la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres ». Moi, je me méfie des moralistes, je me méfie de ceux qui font des procès avant l'audience. J'attends de voir ce que sera exactement la position de Jean-Paul Delevoye, j'attends de voir ce que donnera l'enquête, et puis après, on pourra en parler.
Jérôme Carcenti, qu'est-ce qu'il faut faire, je veux dire, d'un point de vue législatif? Est-ce qu'il faut aujourd'hui renforcer l'appareil législatif tel qu'il est présent aujourd'hui?
Oui, profondément, profondément à plusieurs niveaux. On a un premier problème, et ça c'est un problème judiciaire, qui est celui de l'indépendance du parquet. On a aujourd'hui, et depuis toujours d'ailleurs, un parquet français qui est un parquet sous tutelle du pouvoir exécutif, et qui va poursuivre de manière parcimonieuse, même si depuis la création du parquet national financier, il y a une énergie un peu nouvelle. Malgré tout, on voit bien comment le parquet reste sous tutelle du pouvoir exécutif et comment ça pose des difficultés. Quand vous avez un ministre de la Justice comme Nicole Belloubet qui fait des déclarations pour nous expliquer que Monsieur Delevoye exerce parfaitement et a parfaitement fait sa déclaration d'intérêt, qu'en tout cas elle est de parfaite bonne foi. Vous avez un ministre de la Justice sur une affaire en cours, puisqu'on sait aujourd'hui que le parquet est saisi, il donne un point de vue. Et le parquet est sous tutelle du garde des Sceaux. Donc on a là déjà une première problématique qui devrait être rapidement tranchée, mais dont les gouvernements successifs ne souhaitent pas en réalité aborder la question. Ensuite, on a toute une kyrielle de problématiques qui tiennent principalement, je vais dire, en deux volets. Le premier volet, c'est la place des lobbies en France. Et là-dessus, il y a des réformes législatives importantes. Ce n'est pas le registre de la transparence qui a été voté en 2016 ou 2013, je ne sais plus si c'est la première ou la seconde loi, mais qui résout le problème, puisqu'en réalité, on a juste une inscription des lobbies sur ce registre. Et on n'a aucun suivi ni de qui ils rencontrent, les parlementaires n'ont aucune obligation de déclaration, les rendez-vous peuvent se faire où ils veulent, bref, on a les amendements proposés ou rédigés par les lobbyistes ne sont pas déclarés, on n'a pas l'origine non plus des projets de loi, donc en réalité on ne sait pas d'où viennent parfois les propositions de loi qui sont élaborées. Et on a un deuxième volet, on pourrait décliner sur la question des lobbies en France, mais on a un deuxième volet, à mon avis, problématique, c'est la question du pantouflage, c'est-à-dire le passage du public au privé, des hauts fonctionnaires vers la voie privée, et surtout ce qu'on appelle le rétro-pantouflage, c'est-à-dire le retour des fonctionnaires qui étaient passés dans le privé et qui retournent dans le public. Et cette idée qu'on peut passer du public au privé parce que ça enrichit, ça nourrit, ça permet d'exercer plus, j'allais dire, plus clairement la vie politique, c'est le contraire en réalité. C'est qu'on est de plus en plus soumis aux intérêts privés et à une logique privée qui fait que d'ailleurs, M. Macron a résolu le problème en contractualisant la fonction publique dans les mois à venir.
Jérôme Carcenti,
on aura plus cette problématique.
Jérôme Carcenti, un chiffre tout de même, puisque depuis l'installation du gouvernement Philippe le 21 juin 2017, on compte 16 départs du gouvernement, soit un départ tous les 57 jours. Sur ces 16 départs, 12 démissions, 8 pour des affaires. On pourrait citer Richard Ferrand, Sylvie Goulard, François Bayrou, Marielle de Sarnez, Laura Flessel, Françoise Nyssen, François de Rugy, dernier en date Jean-Paul Delevoye. Je me tourne vers vous, Mathias Chiche-Portiche. Est-ce à croire que la présidence de Macron, le gouvernement de Philippe a un problème avec les conflits d'intérêts, l'argent, la transparence, ou faut-il corréler la succession de ces affaires à la création en 2013 du parquet national financier?
Je pense que la création du parquet national financier est à un moment donné de l'histoire judiciaire qui suit l'affaire Cahuzac, assez logique compte tenu de la volonté de concentrer l'action pénale sur des sujets particuliers et de concentrer un certain nombre de moyens. Je pense que c'est beaucoup plus large en réalité. C'est au fond les dévoiements de ce qu'on appelle la jurisprudence Balladur. Cette idée que un ministre mis en examen doit démissionner. Là, c'est plus un ministre mis en examen, c'est aujourd'hui un ministre mis en cause dans un article de presse. Puisque avant même qu'il y ait la moindre enquête, un certain nombre de personnes, et je pense notamment à François de Rugy, ont été contraints, poussés par une pression de l'opinion publique à démissionner. Alors, moi, ma position, elle est simple. Tant qu'une personne n'est pas condamnée définitivement par la justice, elle n'a pas à tirer un certain nombre de conséquences sur un mandat. Pourquoi ? Parce que sinon, demain, vous pouvez avoir n'importe quelle mise en cause qui conduit à n'importe quelle démission, et pas nécessairement d'ailleurs que dans la fonction politique. En revanche, si la pression est telle qu'il n'est plus en mesure, ce ministre, d'exercer sereinement ses fonctions, alors là, effectivement, il doit y avoir des conséquences politiques à tirer. Mais c'est pour ça que j'en appelle à davantage de maturité, puisque c'est ça le sujet. Si les citoyens étaient peut-être plus informés de ce qu'est la chose judiciaire, alors ils comprendraient aussi qu'un mis en examen est présumé innocent et qu'il faut attendre qu'une juridiction se prononce pour savoir si la personne est innocente ou coupable.
Jérôme Carcenti, une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit ?
Non, je partage le point de vue de mon confrère sur l'idée qu'une personne mise en examen est une personne présumée innocente. Où c'est différent, c'est que lorsqu'on exerce des fonctions publiques, et notamment des fonctions gouvernementales, qu'on est censé agir au nom de l'intérêt général et qu'on est soi-même mis en cause, que du coup, on est une figure de premier plan, que la presse, l'opinion publique va s'intéresser davantage à cette affaire, et que du coup, la parole publique qui va être défendue ne sera plus audible, ne sera plus crédible. Donc, on peut tout à fait imaginer, il ne s'agit pas là de montrer du doigt au point de stigmatiser une personnalité de public de premier rang parce qu'elle serait mise en examen. Mais simplement, l'équilibre des pouvoirs et l'exercice des fonctions, soit ministérielles, soit de premier plan, sur le plan parlementaire, font que on ne peut pas continuer à exercer au risque de troubler le fonctionnement des institutions. Et là, c'est de la responsabilité. C'est pour ça que cette jurisprudence, entre guillemets, Balladur, a existé, parce que c'était de la responsabilité publique. C'était de dire, on ne peut pas continuer à avoir des représentants publics mis en cause par la justice et sans qu'on en tire des conséquences politiques. J'ai pas dit judiciaires, mais politiques. Et ça, je crois que c'était de bon augure. Et c'est de bon augure.
En tout cas, c'est un débat qui reste ouvert. On l'aura sans doute une nouvelle fois à l'avenir sur Radio France Internationale, la question de la transparence. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, messieurs. Merci à toute l'équipe du débat
beaucoup.
Du jour.
Merci à vous.
Merci Mathias Chiche-Portiche et à vous, Jérôme Carcenti. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Fabrice Viollet à la réalisation, Simon Carteret à la documentation. Le débat du jour à retrouver sur RFI.fr ainsi que sur nos applications mobiles. Demain, comme tous les vendredis, François Bernard sera à ma place pour les dessous de l'Infox. D'ici là, n'oubliez pas, restez curieux.
Musique du monde, Laurence.